polytechnique, mémoire d'éléphant, brillantissime, supérieurement intelligent, une belle femme, de beaux enfants. Je suis capable de visiter 10 pays en 3 mois, de lire le menu du restaurant à l'envers. On me surnomme le Cost Killer, le samouraï. Je suis.
Vous êtes Carlos Ghosn.
Himself, Carlos the King of the Automobile. El Rey, Magic Carlos, Super Carlos.
Ça fait tellement de bien d'entendre ce sourire, cette voix. Salut Bernard. Bernard Maris, on est 2 ans avant Charlie. On n'arrête pas l'écho, démarrer encore avec un de ses portraits. Les hommes de la semaine, mais il nous les croquait. Et déjà Carlos Ghosn, bien sûr. Alors vous imaginez cette semaine ce qu'il aurait fait de Magic Carlos et de sa conférence de presse. Vous imaginez comment il nous aurait citronné Trump et Xi et leur guerre commerciale. Et comment il nous aurait assaisonné la réforme des retraites. Et nous là, en studio, ça nous oxygénait. Ça mettait l'économie à portée. Une grande bouffée d'analyse antilibérale avec beaucoup d'humour. Souvent une pincée de mauvaise foi pour se mettre en jambes. On voulait rire et on voulait réagir. Oui, les premiers de cordée, il nous les encadrait avec son accent hispano-toulousain ou américano-toulousain ou sino-toulousain. Peur de rien. Bernard Maris, il avait la force de celui qui a pris le temps de construire sa pensée. Docteur en sciences éco, prof d'université, chroniqueur à Charlie, romancier, nommé au Conseil Général de la Banque de France. Alors là, on l'a un peu charrié, hein, pour la forme. Mais on comprenait, il pouvait y faire du bien, justement là, le pourfendeur de la société d'accumulation, des aveuglés de la croissance infinie, le capitalisme sans limite, pulsion de mort et danger sur la planète, bien sûr, ce qui ne l'aurait pas empêché d'encadrer aussi Greta. Donc Bernard Maris, il nous manque, il est terriblement triste que cet homme doux et érudit, mais souvent en retard, n'ait pas raté ce rendez-vous le 7 janvier avec le mal qui s'inscrit dans le vide de la pensée.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et bienvenue l'équipe, tous ensemble. Christian, c'est ce qu'on disait.
Ouais.
Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour à tous.
Et bonjour Emmanuel Lechypre de BFM Business.
Bonjour à tous. Il faudrait peut-être nous le remettre de temps en temps, le tous ensemble.
Oui, c'est, ouais, je, alors on va le rechercher.
Ah, oui.
Là, on avait Carlos Ghosn sous la main, c'était quand même trop délicieux. Débat spécial dédicace pour Bernard Maris ce matin. Hein, est-ce qu'il faut augmenter nos salaires? Il nous manque cet économiste dans le paysage.
Oui, il nous manque, tous ensemble. Moi, j'ai Carlos Ghosn cette semaine, ça m'a fait penser à Victor Hugo. Vous savez, Victor Hugo dans Les Misérables, il parle des bons et des mauvais riches. Et pour moi, Carlos Ghosn, c'est le symbole du mauvais riche. Victor Hugo, j'étais surpris, moi, parce que je suis en train de relire les.
Vous faites comme Bernard, vous les romans, la littérature à l'écho.
Et puis j'étais surpris de voir qu'il parle des économistes. Il emploie le terme plusieurs fois. Et il y a plusieurs pages où Hugo nous dit dans Les Misérables, il y a des problèmes de production et de répartition de la richesse. Dans Les Misérables, je m'attendais pas à trouver ça. Et le bon riche, en gros, c'est quoi? Celui qui produit de la richesse, mais qui en plus la répartit après pour faire de la cohésion sociale. C'est pas tout à fait les mots, mais c'est le message de Hugo. Il dit, par contre, vous avez les mauvais riches, c'est ceux qui produisent peu de richesse et qui veulent accumuler pour eux et qui veulent rien donner. Je vous cite quand même ces deux lignes de Hugo. Et le monde vous laissera mourir et tomber parce que le monde laisse tomber et mourir tout ce qui n'est que de l'égoïsme, tout ce qui ne représente pas pour le genre humain une vertu ou une idée. Bah, le père Hugo, il était quand même top.
Emmanuel.
Ah bah si vous voulez rester dans la littérature, moi j'ai trouvé un petit côté conte de Monte Cristo à notre ami Carlos Ghosn cette semaine.
Ah ouais, vous aussi pour vous c'est un conte pour enfants.
Il s'est échappé de son château d'if japonais. On sent qu'il a une envie de se venger. Alors il reste toujours le Carlos Ghosn qu'on a connu, hein. Mégalomane.
Lui, il a trouvé le trésor avant de sortir.
Mégalomane. Ouais, alors c'est là qu'on n'est pas tout à fait d'accord parce que quelqu'un qui réussit à redresser quand même deux entreprises qui étaient quand même dans une situation assez difficile, c'est pas quelqu'un qui est complètement dénué de talent.
Bon, on reste là-dessus, Carlos Ghosn, et on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débat, le temps d'annoncer le menu. Nous allons parler santé avec le reste à charge zéro, qui se met en place pour les lunettes et les prothèses dentaires. Que pouvons-nous en attendre? Vous entendrez le reportage de Claire Chaudière. La réforme des retraites, 38e jour de grève, des manifestants dans la rue encore ce samedi. Que va proposer Édouard Philippe au sujet de la conférence de financement? François Asselin, le président de la CPME, sont les petites et moyennes entreprises, était à Matignon hier, et bien il est ce matin, sur France Inter, ce sera vers 9h45. Et puis le moment Foulon, juste avant 10h. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, encore une histoire vraie sur une vidéo sur les réseaux sociaux dans ma vie au boulot.
Oui, je vais vous raconter une histoire, ça pourrait s'appeler Blackface, Slip et Vidéo.
Quel teasing. À tout à l'heure. Nous sommes avec le réalisateur Coy Nguyen, l'attaché de production Valentin Pérez et avec Guillaume Roux à la technique. On n'arrête pas l'écho, c'est parti. Tout de suite, on commence par parler salaire. Attendez, c'est le ministre de l'économie qui met le sujet sur la table.
Croyez-moi, la question salariale est devenue la question fondamentale du capitalisme. Comment peut-on défendre un modèle économique qui ne permettrait pas à ceux qui travaillent de vivre dignement de leur travail? C'est ce qui nous a amené, avec le président de la République et avec le Premier ministre il y a un an, à décider une augmentation de la prime d'activité. C'est ce qui nous a amené à décider la défiscalisation des heures supplémentaires, à baisser l'impôt sur le revenu de 5 milliards sur les revenus les plus modestes. Donc moi j'estime que les pouvoirs publics ont fait leur part du chemin pour faire en sorte que tous ceux qui ont des salaires modestes vivent mieux de leur salaire. Vous me voyez venir, je souhaite que les entreprises fassent aussi leur part du chemin. Je vous le dis, les entreprises doivent garantir un meilleur partage de la valeur. Elles doivent s'engager dans cette voie-là quand leurs résultats économiques sont au rendez-vous. Elles doivent ouvrir des perspectives à leurs salariés. Ce nouveau capitalisme, enfin, cela suppose aussi de la dignité et de la décence dans les salaires des dirigeants.
Voilà, c'est Bruno Le Maire, c'était mardi dernier à Bercy. Ses vœux aux acteurs économiques, et donc là, il s'adresse aux chefs d'entreprise. Emmanuel Le Chip, quand on dit qu'on veut un meilleur partage de la valeur, ça veut dire qu'aujourd'hui en France, la valeur, elle n'est pas bien partagée?
Alors, je suis pas sûr que Bruno Le Maire parlait. Alors, il parlait des salaires, mais il ne parlait pas que de ça. Hein, parce qu'on va juste rappeler comment se partage la richesse créée par les entreprises. Dans un premier temps, elle se répartit entre tout ce qui est distribué aux salariés sous forme de rémunération et ce qu'on appelle les profits. Ça, c'est vraiment le premier partage. Or, quand vous regardez la proportion historique, on est à peu près sur 2/3 pour les salariés, 1/3 pour les profits, mais ça varie un petit peu, et il se trouve qu'aujourd'hui, en France, le partage de cette valeur ajoutée n'a jamais été aussi favorable aux salariés, je dis bien aux salariés, depuis le milieu des années 80. Donc jamais le partage de la valeur ajoutée n'a été aussi favorable aux salariés depuis le milieu des années 80. Après, dans la partie profit, aux entreprises.
Que faites-vous de ces profits?
Que c'est un peu ça la question. Profits. Ouais. Et là, effectivement.
Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'impôt pour les entreprises chez Emmanuel.
Il y a plus, si, bah, bien sûr que si.
Ne vous inquiétez pas, après, si, vous corrigez la photo, Christian.
On parle après impôt, Christian. Et il y a effectivement les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Et il y a ce qui est investi pour les entreprises. Et donc, moi, dans le message de Bruno Le Maire, il y a certes les salaires, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire. Et là où on est particulièrement en retard en France, c'est sur la partie intéressement des salariés au profit.
Christian Chavagneux.
En perspective historique, en fait, depuis 1980, il y a une baisse généralisée dans tous les grands pays industrialisés, en Europe et aux États-Unis, de la part des salariés, hein, de part des salaires dans la valeur ajoutée. Aussi en France, mais c'est un rééquilibrage dans les années 80 et en Europe, alors qu'aux États-Unis, ça a surtout démarré, enfin, ça s'est beaucoup accéléré dans les années 2000. Donc, le timing n'est pas tout à fait le même. Et c'est vrai, là, je suis d'accord avec Emmanuel, il faut le reconnaître, depuis ces dernières années, le partage de la valeur ajoutée en France est plutôt plus favorable aux salariés que au reste du partage. Mais il y a un point important qu'il faut souligner, c'est que dans l'ensemble des revenus des ménages, il y a les salaires et les transferts sociaux. Et si vous prenez ça sur une longue période, sur les 50 dernières années. La part des salaires en 1960, c'était 75% et les transferts sociaux, ce qu'on touche quand on est au chômage, quand on touche quand on a des arrêts maladie, tout ça, c'était uniquement 25%. Aujourd'hui, c'est 60% uniquement les revenus et 40% les transferts sociaux. Donc oui, les revenus des Français, je dirais, ont bien plutôt progressé dans le bon sens.
C'est-à-dire que les entreprises ont correctement partagé
ça veut dire que l'État, les Français ont pu maintenir une part importante de leurs revenus parce qu'il y a de plus en plus de redistribution sociale. Alors c'est vrai que ce fait que les transferts sociaux jouent un rôle important, parce qu'on a de plus en plus de retraités dans les revenus de l'ensemble des Français. Mais même si vous restez sur les salariés, la part des transferts sociaux s'accroît par rapport à la part des salaires. Ce qui peut faire que, même si le partage de la valeur ajoutée peut être plus favorable aux salariés, les salariés peuvent avoir l'impression qu'ils ne touchent pas le résultat de leur travail.
On a eu ce chiffre cette semaine, les dividendes du CAC 40. Les entreprises françaises ont distribué à leurs actionnaires plus de 49 milliards. C'est en augmentation de 15% par rapport à 2018. Ça fait toujours réagir. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Le Chypre ?
Bah, d'abord, c'est un chiffre, là, c'est les dividendes versés en 2019, donc qui correspondent à, au profit réalisé en 2018, qui était une bonne année
sur le plan. Proche de 90 milliards.
Oui, ouais. Qui était une bonne année sur le plan de la conjoncture économique. Donc, ces entreprises, effectivement, on parle du CAC 40, et il faut savoir que vous retrouvez toujours le même trio à la tête de cette distribution de dividendes depuis des années, à savoir Sanofi, BNP Paribas et Total, qui à eux seuls, en général, distribuent un tiers de ces dividendes. Donc, mais la question, c'est ces dividendes, d'abord, ils vont à qui ? Quand on regarde, ils sont distribués, évidemment, vous allez me dire, aux actionnaires. Et parmi ces actionnaires, on trouve d'abord les épargnants du monde entier, c'est-à-dire les retraités californiens, les fonctionnaires japonais. Ça, c'est à peu près un quart de l'actionnariat. Et c'est là où on peut rejoindre le débat de Bruno Le Maire, c'est qu'on aimerait que finalement il y ait en France, notamment peut-être sous la forme de fonds de pension, des actionnaires français qui bénéficient de ça. Quand vous discutez avec le patron de Total, il vous dit mais attendez, moi vous croyez pas que je préférerais discuter avec des fonds d'investissement français plutôt qu'avec des fonds de pension venus de je sais pas où. Donc il y a ça. Après il y a les familles, il y a les fondateurs de ces boîtes qui sont environ 10% de l'actionnariat, les actionnaires individuels, et puis vous avez l'État aussi qui est 3% aussi des actions qui gagnent de l'argent. Est-ce que ça se fait au détriment de l'investissement pour finir ? Bah non, c'est ce que dit l'étude de Vernimen qui publie ces chiffres. Ils disent il y a un lien parfaitement identifié entre plus les entreprises distribuent de dividendes, plus elles investissent. Donc le reproche qu'on peut leur faire éventuellement qui consiste à dire ah bah oui mais tous ces dividendes que vous distribuez du coup, c'est de l'argent qui ne vous sert pas à financer vos investissements, c'est bah, pas tellement
vrai. Bah si, c'est vrai, Christian si ça part en dividendes, ça part pas en investissement.
Ce sont celles qui distribuent plus de dividendes qui aussi augmentent leurs investissements.
Alors, est-ce que quand les entreprises distribuent plus de dividendes, c'est signe simplement qu'elles sont en très bonne santé et qu'elles font plus de profits. Bah justement ce fameux Vernimen qui est donc la source qui a calculé ces dividendes nous dit que aucune entreprise n'a dû s'endetter au-delà du raisonnable pour verser des dividendes. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui quand même s'endettent pour verser des dividendes. Ça, c'est vraiment
des
pas sain.
Des entreprises du CAC 40,
Du CAC. Donc, ça, c'est vraiment pas sain du tout. Allez vous endetter pour distribuer des dividendes, ça, c'est pas sain. Le taux de distribution, c'est 58%. Ça veut dire quoi ? Que quand à chaque fois vous faites 100 de profit, le CAC 40 a donné 58 en dividendes. Et donc, simplement, le reste peut rester dans l'entreprise. Donc, le taux de distribution est quand même très élevé. Mais là où je suis d'accord avec Emmanuel, je dirais malheureusement, parce que là, heureusement pour les entreprises françaises, ça a beaucoup changé depuis 2010. La situation a beaucoup changé depuis 2010. Si vous prenez, parce que les entreprises, elles distribuent des dividendes, mais elles sont aussi actionnaires d'autres entreprises, donc elles en reçoivent aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est la situation nette, les dividendes qu'elles versent, moins les dividendes qu'elles reçoivent. Et il ne faut pas ramener ça à l'investissement brut, comme on le fait généralement, parce que dans l'investissement, des statistiques générales d'investissement, il y a simplement le fait que vous amortissez les investissements anciens, et puis il y a les investissements nouveaux que vous faites. Donc il faut comparer ce que les entreprises elles versent de manière nette, donc si elles versent en dividendes moins ce qu'elles reçoivent, par rapport à l'investissement, les nouveaux investissements. Au début des années 80, ce qu'elles versaient en dividendes, c'est net, ça correspondait à 20% de ce qu'elles investissaient. Au début des années 2010, elles versaient 2,5 fois plus en dividendes qu'en investissement. Et ça, c'était pas bon. Mais le chiffre, c'est complètement, ça s'est bien rééquilibré.
Enfin, puisqu'on joue à fond
aujourd'hui, je finis pour 2018. Ce qu'elles distribuent en dividendes, ça correspond à 60% de leur investissement. Et ça a tendance à remonter. Attention à ce qu'elles se disent pas. Ça y est, pour nous, la crise est finie et on va distribuer de plus en plus de dividendes au détriment de l'investissement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins vrai qu'en 2010.
Emmanuel.
Alors, puisqu'on joue à front renversé, il y a un sujet que je pensais que Christian il aborderait, c'est les rachats d'actions.
Alors, il y a aussi les rachats d'actions.
Parce que ça, c'est quand même
11 milliards.
Ouais, les 60 milliards de dividendes versés, 11 milliards qui correspondent au fait que les entreprises rachètent leurs propres actions pour du coup, qu'il y en ait moins, les raréfier et leur donner plus de valeur. Et ça, quand même, c'est une pratique qui est une pratique purement financière.
Pas spécifiquement française.
Américaine.
Un jeu mondial.
Aux États-Unis, c'est
pire.
C'est pire. C'est pire. Et ça, c'est quand même pas sain dans le capitalisme financier.
Est-ce que vous nous dites que finalement, les entreprises, la répartition capital travail, c'est assez stable, il n'y a pas de spoliation, de déformation en faveur du capital vis-à-vis du travail. Vous nous dites que finalement, leur politique de dividende, elle est compréhensible. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de... J'imagine les auditeurs qui se disent, attendez, 49 milliards de dividendes versés, 11 milliards de rachats d'actions. Et les salaires quand même, est-ce qu'il faudrait pas augmenter les salaires ? Est-ce qu'on peut pas prendre une partie de ses profits ? Est-ce qu'il y a pas de question salariale ?
Si, il y a une question salariale, parce que ce qui intéresse les gens, nous, en tant qu'individus ou participants dans une entreprise, c'est le pouvoir d'achat part dans le ménage, quoi. Et là, quand vous regardez l'évolution du pouvoir d'achat, c'est-à-dire une fois que vous avez enlevé l'inflation, hein, qu'est-ce qu'il nous reste? Si c'était à 100 au premier trimestre 2010, là, le dernier chiffre qu'on a de l'INSEE, c'est le troisième trimestre 2019, on est à 100,3. 1,3% d'augmentation en 10 ans. L'inflation était largement supérieure. Donc, le sentiment généralisé qu'on a perdu du pouvoir d'achat, il est bien là. Dire que les salaires dans la valeur ajoutée, la part des salaires dans la valeur ajoutée, au moins est stable ou augmente.
Mais ça est-ce dire... que c'est satisfaisant?
Mais ça dit rien de qui a profité de l'augmentation des salaires. Les économistes vous disent souvent, il faut que ce que vous distribuez en salaire correspond à votre efficacité, au travail, votre productivité. Mais dire que les salaires vont plus vite que la productivité dans toute la France, mais ça ne veut rien dire, encore une fois, sur qui profite des augmentations de salaire. Et là, on manque de stats sur les inégalités de salaire au sein des entreprises. Les partis de gauche avaient essayé à l'Assemblée nationale au moment de la loi PAC de dire, il faut qu'on ait plus d'infos. La majorité En Marche nous a dit non, on n'a pas besoin de cette information. On a deux petits indices, les données de l'INSEE pour 2016, pardon, c'est la dernière année connue de l'INSEE, nous disent que les 10% les mieux payés gagnent 14 fois plus que les 10% les moins bien payés. Donc on voit bien que s'il y a des augmentations de salaire, ça doit profiter à quelques-uns. Et le salaire moyen, je prends en équivalent temps plein, c'est à peu près 2250 euros. Donc, vous prenez la moyenne. Alors que le salaire médian, celui qui fait qu'il y a 50% des Français qui gagnent plus, 50% qui gagnent moins, c'est 1500 euros. Et quand vous avez la moyenne qui est 45% supérieure à la médiane, ça veut dire qu'il y a, la moyenne est tirée vers le haut par des très gros salaires. Donc, peut-être que la répartition est bien, mais ça profite sûrement à quelques salariés et pas à tout le monde.
Emmanuel
Lechypre. Il y a deux sujets. Sur le partage de la valeur ajoutée, il y a un point qu'on n'évoque jamais, mais qui pour moi est crucial, c'est le partage de la valeur ajoutée entre les grandes entreprises et les petites. Et en France, on a un vrai problème. Il y a les grandes entreprises s'attribuent une part trop importante parce qu'elles mettent trop de pression sur les PME de la valeur ajoutée. Ce qui fait qu'elles s'accaparent une partie de la valeur ajoutée des PME. Ça se voit à travers les écarts de salaire, par exemple, entre les grosses boîtes et les petites. Les grosses boîtes en France ne subissent que très peu les fluctuations de la conjoncture, à la différence de l'Allemagne, où les PME et les grandes voient la situation fluctuer en fonction de la conjoncture de la même façon. En France, c'est les PME qui amortissent le choc. Et puis, est-ce qu'il faut augmenter les salaires?
Et qui doit le faire? Non. Enfin, et comment le faire?
Non, ouais. Les salaires ne doivent surtout pas être augmentés. D'abord parce que les salaires en France...
Bon appétit.
Il faut rappeler qu'on est le seul pays dans lequel les salaires augmentent plus vite que la productivité.
Mais ça veut rien dire.
Mais
qui
si,
en profite? Mais non, Emmanuel, qui
si.
En profite?
Mais bien sûr que si. Ben, on voit bien que le résultat, c'est que la part des salaires dans la valeur ajoutée n'a jamais été aussi forte. C'est déterminant
pour
notre compétitivité. C'est déterminant pour notre compétitivité. On a un coût du travail qui est trop élevé compte tenu de la qualité des produits qu'on fabrique. Et puis, on a quand même un salaire minimum qui est élevé par rapport au salaire médian. Donc, augmenter le pouvoir d'achat, oui. Augmenter les salaires, non. Et augmenter le pouvoir d'achat, ça veut dire plus d'intéressement, plus de participation.
Eh oui,
ça veut dire jouer sur le logement, etc., etc. Oui, il faut augmenter le pouvoir d'achat, mais surtout pas les salaires. Ce serait contre-productif au niveau global.
Donc là, vous pensez compétitivité,
on en parle. Oui, mais la doxa des économistes est en train de changer sur le SMIC. Ils commencent à nous dire que ça a très peu d'effet et sur l'emploi et sur les salaires. L'intéressement et la participation, moi, je veux bien, mais il y a que 8,5 millions de salariés qui en bénéficient. C'est très inégalitaire selon la taille des entreprises, très inégalitaire sur le mode salaire, etc., etc. Et ça fait augmenter la part du salaire variable par rapport au fixe. Moi, il faudrait essayer de resserrer et avoir des salaires de patrons, comme l'a dit Bruno Le Maire, qui soient peut-être un peu moins élevés. Je rappelle que le CAC 40, le salaire moyen, c'est 5,8 millions d'euros plus 12%.
Ça changera pas le sort des bas salaires,
en 2018, oui, mais ça permet
ça
de...
Fait,
si,
oui.
Parce que ça redonne. Et alors, évidemment, le dirigeant d'entreprise moyen, nous dit l'INSEE, il gagne 103 000 euros. Ça fait quand même 8 600 euros par mois. Ça le classe quand même parmi les plus riches, même si, évidemment, être un chef d'entreprise, ça demande beaucoup de compétences particulières et beaucoup d'engagement.
On s'arrête là-dessus. Christian, Emmanuel, ce matin, on va aussi aller voir un peu comment tourne ailleurs la planète éco.
Et Bernard, il aurait dit, vous avez été bons les garçons.
On est
il le disait à chaque fois.
Mais c'était toujours pris avec plaisir. On prenait. Allez, je vous emmène aux États-Unis.
President Trump has a powerful incentive to have some kind of a deal this year. The Chinese as well don't really want to put the relationship fundamentally in jeopardy.
Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Alexandra Bensaïd.
Pierre-Yves, vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis. Alors la semaine prochaine, un moment qui pourrait être historique, avec Washington et Pékin qui vont signer un accord commercial dit de phase 1, vous allez nous expliquer. Signature dans le bureau ovale, ça sera le 15 janvier, mercredi, entre Trump et le vice-président chinois, après presque 2 ans de bras de fer. Phase 1, donc, ça sous-entend que ça n'est pas la fin de la guerre, mais Pierre-Yves, est-ce que c'est une vraie trêve ?
C'est possible. Une petite précision tout de même, personne dans la presse, ni dans le public, ni même au Congrès, n'a lu cet accord qui va être signé. Il ne doit être rendu public qu'après la signature, nous dit la Maison-Blanche. Et les Chinois, de leur côté, n'ont pas l'air pressés non plus qu'on publie les détails de cet accord. Alors, c'est une trêve, oui, dans la mesure où Donald Trump promet de ne pas relever les droits de douane sur de nouveaux produits chinois. Mi-décembre, faute d'accord, tous les produits chinois entrant aux États-Unis allaient être taxés. C'est une trêve aussi parce que Donald Trump promet de commencer à éliminer certains droits de douane imposés au cours des 18 mois de guerre commerciale. La surtaxe de 15% qui portait sur 120 milliards de dollars d'importations chinoises va être réduite de moitié. Mais si c'est une trêve, en tout cas, ça n'est clairement pas la paix, puisque 250 milliards de dollars de produits intermédiaires chinois vont encore être surtaxés à hauteur de 25%. Dans l'esprit du président américain, c'est le moyen de forcer Pékin à continuer de négocier et à aborder la phase 2 de l'accord. La Chine, semble-t-il, s'engage massivement sur des achats de denrées agricoles américaines, 40 à 50 milliards de dollars par an pour acheter du soja, du maïs, du porc, du poulet par exemple. Et du coup, on se demande si l'Amérique peut produire autant de denrées et si la Chine en a vraiment besoin.
Ah, vous en êtes là. Mais donc, Pierre-Yves, ce qui fâche vraiment, on en parle quand ?
Alors, Donald Trump affirme que la phase 2 de la négociation commence immédiatement. Mais curieusement, les Chinois sont bien moins spécifiques. On a plutôt l'impression, en fait, que Pékin voudrait attendre les élections présidentielles américaines de novembre pour voir si Donald Trump va rester longtemps leur interlocuteur. Alors, Bob Lighthizer, le redoutable négociateur américain, affirme que la phase 1 a déjà permis de faire avancer les choses en matière de protection de la propriété intellectuelle. Mais la phase 2 est censée couvrir ce qui fait vraiment mal. Les Chinois refusent même d'admettre qu'il y a des problèmes sur la question des transferts obligatoires de technologie, sur la question de l'obligation des investisseurs étrangers en Chine à s'associer à des partenaires locaux qu'on leur impose et qui ensuite ont accès à tous leurs secrets de fabrication. Manifestement, la Chine n'a pas voulu bouger depuis 18 mois sur ces questions-là. C'est une question de souveraineté pour le président Xi Jinping et cette phase 2 sera difficile.
Pierre-Yves Dugas avec nous depuis Washington. Merci à vous Pierre-Yves. Merci à Emmanuel Lechypre, à Christian Chavagneux. À venir dans la prochaine demi-heure, la réforme des retraites avec notre invité François Asselin, le président de la CPME. Mais d'abord, après les salaires, on parle de la santé. Vous vous souvenez de la promesse du reste à charge zéro? La prise en charge à 100% des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires d'ici 2022? Eh bien, bonne nouvelle, ça avance. D'ailleurs, écoutez, dans les cabinets des dentistes, janvier 2020, c'est-à-dire maintenant, bah c'est le top départ.
Bonjour.
On gratte là pour venir. Hein.
Étonnamment, les patients ne sont pas du tout informés. C'est vrai. Et c'est moi qui les informe.
Donc voyez par exemple comment ça va se présenter. Quand je vais faire un devis...
Là, on est sur votre ordinateur.
On va aller sur une incisive. Je vais taper couronne. Et donc, mon logiciel, vous voyez, va me proposer toutes sortes de différentes couronnes. Donc, je vais choisir, par exemple, une couronne céramo-métallique. Je valide. Et donc là, vous voyez, ce que j'ai sélectionné là, ce sont tous des actes qui sont 100% santé. D'ailleurs, mon logiciel me les met en vert. Je vais ensuite imprimer le devis que le patient va envoyer à sa mutuelle pour s'assurer qu'il rentre bien dans le cas du zéro reste à charge.
La réforme s'appelle « Reste à charge zéro » ou « 100% santé ». En clair, l'objectif, c'est un meilleur accès aux soins pour les Français qui se privent faute d'argent. Les patients auront le choix entre trois niveaux de prise en charge, on dit trois paniers de soins. Mais attention, dans chaque panier, ils ne trouveront pas le même type de monture de lunettes ou le même type de prothèse. Qui est concerné ? Eh bien finalement, pas les plus modestes, ils ont déjà la CMU complémentaire. Pas non plus ceux qui peuvent s'offrir une bonne complémentaire. En réalité, le reste à charge zéro, il est fait pour les foyers à faible revenu, la petite classe moyenne. Tous ceux qui ont choisi la couverture santé la moins chère. Combien seront intéressés ? Comment les professionnels vont-ils jouer le jeu ? Et au final, qui paiera la facture ? Autant de questions pour notre reporter Claire Chaudière. On la retrouve, ça me dérange là, ce bruit de fraise, ça me stresse. Elle est tout à côté du siège, Claire, qui s'allonge, le siège qui s'allonge, la fraise. Mais détendons-nous, évidemment, le docteur Mojaïski ne fait pas mal.
Je suis donc Catherine Mojaïski, chirurgien dentiste et ancienne présidente de la CNSD, aujourd'hui les chirurgiens dentistes de France. Je pense qu'il y aura sans doute au moins 20-30% des patients qui seront impactés par ces nouvelles dispositions. Je pense que là où on va gagner, c'est dans la réalisation des actes. C'est-à-dire que jusque-là, quand on faisait un devis, souvent les patients temporisaient, attendaient, mettaient un peu d'argent de côté quand la mutuelle ne remboursait pas bien. Aujourd'hui, quand ils vont voir que la prise en charge est soit totale, soit très importante, il y aura peut-être moins cet effet de temporisation et donc ils réaliseront plus vite les actes et de ce fait, la dent risquera moins de se dégrader.
Est-ce que vous pourriez nous montrer comment ça se passe pour les devis qui ne sont pas reste à charge zéro?
Donc là, j'ai fait le choix d'une couronne à honoraire libre et je vais donc imprimer mon devis. Je vous le fais en direct live. Donc là, vous avez une première partie, ce traitement proposé qui est la couronne céramo-céramique à honoraire libre. Et dans la partie inférieure, le patient est informé qu'il pourrait avoir une couronne avec zéro reste à charge qui donc apparaît dans la partie information.
Donc si je comprends bien, il y a une obligation d'informer le patient, mais pas de proposer l'offre de soins reste à charge zéro, notamment ces fameuses molaires en métal.
Si vous voulez, on ne peut pas obliger un praticien à réaliser des actes qu'il ne fait pas. Et l'assurance maladie, quand elle a effectivement analysé juridiquement la situation, s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas obliger des praticiens à faire des actes qu'ils ne font pas. D'où ce compromis d'informer le patient qu'il peut y avoir une option sans reste à charge. Mais je pense que dans la pratique, ça va quand même permettre à beaucoup de gens de réaliser des soins qu'ils ne pouvaient pas réaliser jusque-là.
On l'a donc compris, les dentistes ne seront pas véritablement obligés de proposer ces prothèses au prix plafonné et qui sont désormais entièrement prises en charge par la Sécurité sociale et les complémentaires santé. Alors les principaux syndicats de chirurgiens dentistes assurent qu'une minorité seulement refusera de rentrer dans le dispositif. Mais ce n'est quand même pas tout à fait ce qui était prévu au départ et cela inquiète Ferouz Aziza de France Asso Santé qui regroupe 80 associations de patients.
Il y a bien une obligation concernant l'optique et l'audioprothèse de proposition clairement affichée, notamment dans les devis, ce qui n'est pas le cas pour les dentistes. C'est-à-dire qu'ils sont amenés à proposer des alternatives thérapeutiques éventuellement, mais ils auront effectivement l'opportunité de ne pas proposer, eux, l'offre 100% santé. Donc c'est pour nous un vrai manquement.
Cela dit, elles peuvent aller se faire faire cette prestation, cette prothèse, en l'occurrence dentaire, chez un autre praticien.
S'ils ont déjà la possibilité effectivement d'avoir un rendez-vous rapidement, s'ils connaissent d'autres praticiens et puis si les autres praticiens le proposent. Et voilà, s'il y a une totale liberté du praticien de ne pas le proposer éventuellement ou de ne pas le faire eux-mêmes, c'est vrai que le risque c'est soit que ça engorge ceux qui eux le proposeront, soit qu'effectivement il y ait peu finalement de praticiens qui le fassent. Donc ça serait quand même dommage puisque le but c'est quand même que la réforme permette un meilleur accès aux soins. C'est pas un point de détail parce que ça va quand même avoir un impact potentiel. Est-ce que vraiment les professionnels de santé incitent au 100% santé ou pas, ou est-ce qu'ils informent bien mais en disant mais vous feriez mieux de prendre les autres produits parce que vraiment là ça sera de mauvaise qualité. Et puis il y a aussi la question du choix qui va être fait notamment pour les lunettes. Parce qu'il y a un minimum obligatoire de modèles, il faut avoir au moins 17 modèles différents dans plusieurs couleurs. Mais il y a une liberté de choix aussi peut-être du professionnel, de s'il s'oriente vers 17 modèles mais qui se ressemblent tous. S'il n'y a pas une diversité aussi de choix, on se doute que les personnes risqueraient aussi peut-être de ne pas s'orienter vers ce type de produit. Donc voilà, il y a encore des choses qui vont nous échapper.
Et l'une des clés de la réussite de cette réforme repose effectivement sur le choix des produits proposés et la qualité des nouveaux soins 100% pris en charge. Le gain pour les patients est important, entre 125 et 600 euros d'économie en dentaire par exemple, mais avec, pour les dents du fond, des molaires en métal que de nombreux dentistes avaient arrêté de poser ces dernières années. À la Caisse nationale d'assurance maladie, la directrice de l'offre de soins, Delphine Champetier, se veut tout de même très rassurante.
Bonjour.
On a vraiment veillé à ce que dans le panier reste à charge zéro, ce soit vraiment avec des matériaux et des soins de qualité. C'est vrai que c'est une critique qu'on entend parfois, mais pour nous, elle n'est pas légitime parce que dans ce panier figurent des soins. Et la question aussi, c'est est-ce que typiquement, je ne vais pas avoir sur mes dents les plus visibles, les dents du sourire, droit, entre guillemets, que à des couronnes métalliques. Et donc, du coup, on voit bien qu'en termes esthétiques, c'est peut-être pas la solution idéale. Mais la réponse est vraiment non, hein. C'est-à-dire que on propose même dans le panier reste à charge zéro une prise en charge sur les prothèses qui respectent à la fois des conditions de qualité et aussi des critères esthétiques.
Parce que beaucoup de gens se sont focalisés sur les fameuses molaires en métal, c'est ça ?
Oui, mais on n'a pas forcément envie d'avoir le même matériau sur la dent, suivant que la dent est visible ou moins visible. Et franchement, en termes d'accès aux soins, cette réforme, elle fait quand même vraiment un pas très très important. Enfin, l'ensemble de l'investissement consenti sur ces trois secteurs est quand même extrêmement important. Et moi, il me semble que c'est une réforme très importante. Et je trouve même que on en parle presque pas assez par rapport à l'importance en fait qu'elle peut avoir au quotidien dans la vie des Français, quoi.
Sauf que tout cela est bien trop beau pour être vrai, répond l'économiste spécialiste des questions de santé et de protection sociale Frédéric Bizard. Le conte de fées n'aura pas lieu, dit-il. Ce qui est présenté comme une réforme révolutionnaire qui permettrait à 4,7 millions de Français de ne plus passer de prothèses dentaires est en fait une usine à gaz, et une usine à gaz, selon lui, assez dangereuse.
Le modèle français, même s'il n'y a pas de modèle parfait, en fait, vise à permettre à toute la population, quelle que soit son origine sociale et son niveau de revenu, d'avoir accès à la même qualité de soins. Si on prend le dentaire, par exemple, on a créé, pour cette réforme, trois niveaux, trois paniers de soins. Ça entraîne automatiquement une stratification des soins, c'est-à-dire qu'on a rendu gratuit, en fait, une partie des soins. C'est-à-dire que les soins qu'on pourrait appeler des soins low cost, des soins de base. Donc cette loi est en fait la première loi qui reconnaît institutionnellement que finalement, on accepte la médecine à plusieurs vitesses, avec plusieurs niveaux de paniers de soins. C'est plutôt une évolution vers un modèle à l'anglo-saxonne. Et alors on peut dire ça ne concerne que certains secteurs, mais en tout cas moi je trouve que c'est une fissure dans la force du modèle français. Cette réforme, en plus, a la spécificité, c'est en fait de concerner des secteurs dont les opérateurs sont à plus de 90% des opérateurs privés. La sécurité sociale prend, il faut savoir qu'elle prend 4% en charge de l'optique, elle prend à peu près un tiers de l'ensemble des dépenses du dentaire en charge, et elle prend moins de 50% de l'audioprothèse. Donc on est sur des domaines qui sont majoritairement remboursés par les assureurs privés. Et les effets de bord, si on parle de l'évolution des primes, des contrats des complémentaires santé, n'ont pas été véritablement encadrés. Et d'ailleurs, je ne vois pas ce qu'on a mis en place pour éviter ces effets de bord. À part des engagements, le président de la République, la ministre, a demandé officiellement aux assureurs privés de ne pas utiliser cette réforme comme un effet d'aubaine. Mais malheureusement, quand vous avez des logiques économiques en cours, vous avez des acteurs qui doivent dégager du profit, qui doivent dégager une rémunération de leur travail, on peut craindre que, véritablement, l'assuré soit le laissé pour compte de cette réforme.
Le financement, justement, de la réforme, il y a donc trois payeurs. Prenons les soins dentaires. Les chirurgiens dentistes acceptent en échange de contrepartie le plafonnement de certains soins. La sécurité sociale met de l'argent sur la table, 700 millions d'euros sur 5 ans. 500 millions d'euros restent à la charge des complémentaires santé, mutuelles et assureurs privés qui doivent théoriquement jouer le jeu et ne pas augmenter leurs cotisations. Il est un peu tôt pour dire si ce contrat tacite passé avec le gouvernement est respecté, mais à 60 millions de consommateurs, Adélaïde Robert a déjà constitué un petit dossier sur le sujet et l'heure est à la vigilance.
Votre société ?
France Inter, la radio, France Inter.
Qu'est-ce que vous avez là entre les mains ?
Alors, à 60 millions de consommateurs, on a reçu un certain nombre de courriers. En fait, on a beaucoup de lecteurs qui se sont inquiétés de l'augmentation des cotisations quand on a commencé à entendre parler du reste à charge zéro.
Ça, c'est un premier courrier.
Un monsieur qui nous écrit « Ma mutuelle augmentera de 9% au 1er juillet 2019 ». Il ne le met pas directement en lien avec le 100% santé, mais typiquement, on l'a mis de côté parce que voilà, 9%, ça paraît effectivement important.
Donc là, c'est une photocopie d'un courrier de mutuelle ou de complémentaire santé adressé à un adhérent.
Voilà, bon, c'est une mutuelle qui expliquait que l'arrivée du 100% santé faisait qu'ils essayaient de recentrer leur offre. Donc en fait, entre les lignes, ils expliquent à leurs adhérents que voilà, ils vont pas changer la cotisation. En revanche, pour le même prix, ils auront un petit peu moins de choses prises en charge. C'est dit clairement, c'est écrit noir sur blanc, donc ils s'en cachent pas. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres personnes qui s'inquiètent de savoir, voilà, peut-être qu'ils vont pas voir clairement sur leur cotisation qu'il y a un changement. En revanche, il va falloir peut-être que chacun épluche un petit peu les contrats pour voir ce qui effectivement est remboursé pour le même type de cotisation. La plupart des organismes de complémentaires s'engagent à ne pas augmenter les cotisations en 2020. Après, quid en 2021-2022? Et puis surtout, est-ce qu'on aura vraiment les mêmes choses pour le même prix? Non, forcément, il va y avoir des choses qui ont déjà bougé. On sait par exemple que si on ne reste pas dans le panier 100% santé, si par exemple on veut une monture hors du panier 100% santé, le plafond de remboursement a été abaissé, il est passé de 150 à 100 euros. Alors ça se justifie parce qu'en moyenne, le prix des montures a diminué. Mais c'est vrai qu'on a voilà, des gens qui déjà nous ont écrit en expliquant « bah oui, mais moi, si je trouve pas la monture qui me va, la qualité, la couleur, concrètement, ça me coûtera plus cher parce que ça me sera moins remboursé. » Et effectivement, oui, dans certains cas, peut-être que voilà, les personnes qui, elles, ont la possibilité d'aller hors du panier 100% santé en seront un petit peu plus de leur poche.
Le reste à charge zéro. Patient assuré, à quoi s'attendre ? C'était le reportage de Claire Chaudière.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et notre modèle social, c'est le système de santé, mais c'est aussi, et même surtout, hein, si on parle de masse financière, notre système de retraite. Ce matin en studio, le président de la deuxième organisation patronale. Bonjour François Asselin.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Président de la CPME, les petites et moyennes entreprises, qui viennent d'ailleurs de vous reconduire pour un second mandat. Alors François Asselin, le Premier ministre doit adresser aujourd'hui des propositions écrites aux partenaires sociaux, la base d'un compromis, dit-il. Est-ce que vous avez reçu du courrier ce matin ?
Ah, peut-être que pendant que nous sommes en train de nous parler, sur ma boîte mail ou par SMS, je suis averti qu'on a reçu quelque chose. En tout cas, je subodore ce qu'on risque de recevoir.
Alors, vous vous attendez à quoi ?
Vous savez, on est dans une situation, comme vous le savez très bien, de blocage, où certains disent, écoutez, en tout cas les syndicats réformateurs, hein, disent, nous, on veut ce système par points, hein, de retraite par points, mais on ne veut pas entendre parler de ce fameux âge pivot. Et puis, vous avez d'autres, plutôt le camp patronal, mais aussi plutôt l'exécutif, qui dit, de toute façon, il faut une mesure d'âge, cette fameuse mesure d'âge pivot. Eh bien, écoutez, faisons confiance aux partenaires sociaux. On sait trouver des solutions, par exemple, entre nous au niveau de l'Agirc Arco, c'est la caisse complémentaire des salariés du secteur marchand, hein, privé. Eh bien, redonnez-nous les clés de la négociation et puis voyons comment ensemble on va arriver à sortir de ce blocage. Nous considérons, nous à la CPME, que de toute façon, il y a une chose dont on ne peut pas s'affranchir, c'est le principe de réalité.
Est-ce que vous considérez que pour sortir de ce blocage, de toute façon, il faut rallier ces syndicats réformistes et en premier lieu la CFDT ? Que cette réforme ne peut pas se faire avec l'opposition des réformistes ?
Oh, une telle réforme qu'on a qualifiée de systémique, donc qui va toucher tous les actifs, donc tous les Français, c'est quand même 29 millions de personnes, hein, qu'ils soient fonctionnaires, salariés, indépendants, professions libérales, peut difficilement se faire contre l'ensemble de ces actifs. Donc bien évidemment, il faudra trouver un chemin de compromis avec les syndicats réformistes.
Alors quelle petite lettre on va essayer de comprendre ? Ce que disent la CFDT et l'UNSAL, donc les syndicats réformistes, c'est, écoutez, avant toute chose, vous enlevez de ces projets de loi sur la réforme des retraites, vous enlevez les mots âge d'équilibre, c'est-à-dire prolonger l'âge de travail jusqu'à 64 ans, sinon il y aurait une décote et une surcote. Ils disent, on ne veut pas de ça pour démarrer. Vous ne nous faites pas démarrer avec, en gros, le pistolet sur la tempe. Qu'en pensez-vous, François Asselin ? Que pensent les petites et moyennes entreprises ? Est-ce qu'en effet, vous aimeriez que dans ce courrier du Premier ministre, il y ait, allez, on enlève ces mots pour le moment ?
Nous nous sommes attachés à la chose suivante, c'est-à-dire que vous savez, c'est beau un système par répartition, c'est-à-dire que ce sont les générations plus jeunes qui cotisent, donc qui payent pour les générations plus anciennes qui ne travaillent plus. Si on veut garder entre générations cette solidarité, nous pensons qu'il faut faire très attention à ne pas augmenter les cotisations qui sont payées pour 60% par les employeurs, les entreprises, et 40% par les salariés. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est refiler la patate chaude aux générations montantes, à nos enfants, petits-enfants, pour que nous puissions, j'ai 55 ans, donc j'en ferai partie, partir plus tôt en retraite. Nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes déjà le troisième pays européen à consacrer le plus d'argent en pourcentage de la richesse produite du pays pour financer les retraites, et que la mesure qui nous semble la plus équitable, c'est de trouver ensemble, collectivement, comment nous pouvons, d'une façon équilibrée, allonger la durée de vie au travail.
Oui, mais là, pour sortir du blocage, vous comprenez bien ma question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un ultimate ? On est à un virage, là.
Oui, nous sommes à un virage. Pourquoi ? Parce que le gouvernement va vouloir tenir son calendrier. Le 27 janvier prochain, il veut déposer ce projet de loi en Conseil des ministres, et puis le 3 février, au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et ensuite, suivra tout le chemin parlementaire. Donc, le gouvernement veut aller vite, et nous avons besoin de temps pour faire cette négociation sur l'équilibre financier.
Et vous dites qu'il faut que les réformistes soient dans la réforme, dans le bateau. Donc, est-ce que là, ma question est-ce que là, face à cet ultimatum des réformistes, il faut, oui, enlever aujourd'hui les mots âge d'équilibre du texte.
Écoutez, moi je pense que ce qui nous pourrait nous aider tous, c'est d'abord d'appliquer le principe de subsidiarité, laisser la responsabilité aux acteurs dont c'est la responsabilité de tenir les comptes.
Est-ce qu'on peut avoir un oui ou un non, François?
Mais oui,
oui ou non?
Mais
non, non.
Ce qu'il nous faudrait, c'est qu'ils nous donnent les éléments de la négociation et qu'ils disent, écoutez, si vous n'y arrivez pas, eh bien, il faudra faire attention, nous ne pourrons pas augmenter, par exemple, le coût du travail, ou il faudra une mesure d'âge, enlevons la partie âge pivot ou âge d'équilibre, il faudra une mesure d'âge ou en tout cas ne pas augmenter le coût du travail et avec ces paramètres, eh bien, chercher à vous mettre d'accord. Je pense que ça serait parfait.
Alors, en même temps, ce cocktail de solutions, donc vous dites cocktail de solutions, ok, on peut chercher d'autres solutions pour financer le système, mais vous dites pas de hausse de cotisation, j'imagine que vous dites pas de baisse des pensions. Donc, qu'est-ce qui reste d'autre? Le troisième levier, c'est toujours allonger l'âge de départ, de la durée de travail.
Savez-vous que déjà, depuis une petite dizaine d'années, progressivement, les Français travaillent un peu plus longtemps sans que personne n'en parle. Nous sommes arrivés à un âge moyen de départ en retraite de 62 ans et demi à peu près aujourd'hui dans notre pays, alors que c'était bien, bien moins que cela auparavant. Donc,
La
réforme Touraine est en cours. Et imaginons même que cette réforme n'aboutisse pas, l'actuelle réforme. Eh bien, nous devrions nous mettre autour de la table avec les partenaires sociaux très rapidement pour équilibrer notre régime actuel. Donc, nous avons bien évidemment ce mur de réalité que nous avons devant nous.
Mais à quelle concession?
Il faudra trouver une solution.
Mais à quelle concession?
Ce qui s'est passé, par exemple, avec la CFDT sur l'AGIRC-ARRCO. On a bien trouvé une mesure d'équilibre qui est un âge pivot. Alors, qui n'est pas aussi radical que dans le projet du gouvernement, puisque c'est un malus sur une période courte, sur un an, et c'est un bonus sur une période courte, sur un an. Donc, c'est pas un système très incitatif. Mais sur le principe, nous sommes mis d'accord avec les syndicats. Je ne verrai pas pourquoi, sur cette réforme, nous n'arriverions pas. Il y a beaucoup de paramètres à nous mettre d'accord, là encore, avec les partenaires sociaux.
Ça ne rapporte pas autant, le malus sur... Et c'est une des données de l'équation, le malus de l'AGIRC-ARRCO.
C'est une des équations. Et puis là, vous voyez, dans l'actuelle réforme, attention, ça va bien au-delà de l'AGIRC-ARRCO, puisqu'on intègre les professions libérales et les indépendants, et puis surtout toute la fonction publique avec les régimes assimilés, les fameux régimes spéciaux.
Elle coûte plus cher que prévu, François Asselin, cette réforme, on a beaucoup de mal à chiffrer.
Oh ben oui, c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'on est en train de discuter d'ouverture, on va dire, de nouveaux droits. Je pense à la pénibilité, je pense au minimum contributif, donc la retraite minimum, les carrières longues, et en même temps, on n'a pas de projection financière. Donc comment voulez-vous négocier sans mettre tout ensemble? Quand nous avons négocié, par exemple, quand nous négocions pour l'UNEDIC, l'assurance chômage, nous avons autour de nous les services de l'UNEDIC qui, dès que nous avons une idée, tout de suite font la simulation chiffrée. On ne peut pas se débrancher de la réalité. Nous y sommes attachés, nous, entrepreneurs.
Donc est-ce que là, le gouvernement crée un problème supplémentaire, finalement?
Vous savez, on ne va pas refaire l'histoire de cette réforme. Mais c'est vrai qu'au départ, nous avons eu affaire à un gouvernement plutôt extrêmement techno sur ce sujet-là. Il aurait peut-être fallu, dès le départ, lancer tout de suite ces négociations entre partenaires sociaux. Oui.
Vous avez parlé de la pénibilité. François Asselin, le patronat aimerait que les salariés travaillent plus longtemps. À quoi êtes-vous prêt sur la pénibilité? Ça fait 15 ans qu'avec les partenaires sociaux, les syndicats, vous n'arrivez pas vraiment à vous mettre d'accord, et tout d'abord sur les critères de pénibilité.
Vous savez, nous n'avons jamais nié, surtout à la CPME, que certains métiers soient physiquement plus exposés que d'autres. Et lorsque c'est le cas, il faut le prendre en compte. Par contre, ce qui avait été imaginé par le passé, c'était qu'on individualisait la pénibilité au niveau de chaque salarié. Alors, on va dire que, intellectuellement, c'est séduisant. Le seul problème, c'est que ça ne fonctionne pas.
Alors, qu'est-ce qu'il faut? Allons-y. Allons droit au but. Quoi pourriez-vous avancer?
Il faut d'abord lutter contre la pénibilité, mais pas lutter contre le travail. Pourquoi je fais ce distinguo? Parce que si vous dites la pénibilité, quoi qu'il arrive, on la répare, eh bien ça ouvre tout de suite l'envie à tout le monde de partir plus tôt en retraite. Or, la pénibilité est avant tout un problème de prévention. Deuxièmement, il faut garder le système des carrières longues. Pourquoi? La carrière longue, c'est quoi? C'est lorsque vous commencez en apprentissage.
D'accord, mais ça n'est pas une avancée. Si on garde un système, c'est pas une avancée.
Ah, c'est déjà une belle avancée. Quand vous commencez en apprentissage et que vous pouvez partir 2 ans plus tôt en retraite par rapport à ceux qui ont commencé plus tard, je pense que c'est plutôt une avancée pour ceux qui, eh bien, surtout en apprentissage, font des métiers plutôt manuels. Donc ça, il faut le conserver. Et nous sommes attachés à cela. Au-delà de la pénibilité, ce qu'on peut mesurer facilement, il faut le conserver. Et peut-être l'améliorer. Je pense au travail de nuit, je pense au travail en alternance. Bref, il y a des moyens très concrets qu'on peut mesurer. Et pour le reste, il faut jouer à fond la prévention.
D'un mot, vous voulez que les Français travaillent plus longtemps. On sait très bien qu'à partir de 62 ans, il n'y a plus que 18% des salariés qui sont encore en emploi à taux plein. Est-ce que les entreprises doivent faire plus d'efforts pour garder ou pour recruter des salariés seniors.
Alors, bien évidemment, et ce sujet-là, vous savez, est plus un sujet de grande entreprise que de PME, parce que lorsqu'un senior part en retraite dans une PME, c'est une compétence que nous perdons et nous avons beaucoup de mal à recruter et même à former.
François Asselin, le président de la CPME, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Alors, la vidéo d'une soirée privée a provoqué la mise à pied de deux salariés du Slip français, c'est le nom d'une entreprise. Hein. Même si c'est de très mauvais goût, vous a écrit Serge, est-ce qu'un employeur peut sanctionner des comportements qui relèvent de la vie personnelle?
La vie privée, il faut le dire et le redire, c'est sacré. Un employeur, Serge, n'a pas le droit de vous sanctionner, quels que soient vos choix politiques, religieux, sexuels. Il existe, en principe, une frontière étanche entre la vie au boulot et celle qui commence en dehors. Mais ça, c'était avant les internets, avant que chacun, dans une servitude totalement volontaire, poste ses vidéos de t-shirts mouillés et de descentes de mojito, pas très virgin. Dans l'affaire qui nous occupe, Serge, une vidéo postée met en scène un blackface, une femme grimée en noir porte boubou et turban, un homme déguisé en singe court à quatre pattes en poussant des cris de gorille, repéré sur le compte Instagram Décolonisons-nous. Deux salariés du Slip français ont été identifiés, balancés à la direction qui a décidé de les mettre à pied. Il n'en fallait pas plus pour ouvrir la boîte à indignation. On ne sait plus s'il faut s'offusquer de la bêtise crasse de salariés qui nient toute volonté raciste ou de ceux qui les ont dénoncés à leur employeur et qui appellent au boycott de la marque, une marque qui manque de bol, s'appelle le Slip français.
Alors justement, Sandrine, comment l'employeur peut-il justifier cette sanction?
Les comportements de la vie privée ne regardent que nous, mais ils ne doivent pas créer de troubles objectifs et caractérisés dans l'entreprise. Si ces salariés devaient être licencié avec un contentieux à la clé, ce serait au juge d'apprécier la gravité de ce trouble. Le patron du Slip français a expliqué que cette vidéo avait causé du tort à l'image de l'entreprise qui est du coup associée à des valeurs racistes. Il dit avoir reçu des messages d'insultes. Pour autant, les appels au boycott seront-ils vraiment suivis? Juridiquement, qu'est-ce qu'un bad buzz alors que le net devient un bad buzz perpétuel? Le fait qu'une vidéo ait été visionnée des centaines de milliers de fois suffit-il à nuire à un employeur? Autre question, Serge, l'employeur peut-il se servir d'une vidéo privée? Oui, mais tout dépend du réseau social. Poster une vidéo sur un réseau fermé, restreint à une communauté d'amis, protège davantage que la diffuser sur un compte Facebook ou Instagram ouvert à tous. C'est encore pire sur Twitter, où l'idée est d'amasser un maximum de vues et de likes. Mais en dehors de toute considération juridique, que de jeunes salariés biberonnés au web, dont l'un des deux travaille au service marketing du Slip français, laissent songeurs sur la maîtrise du web et le sens des images.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.